Bonjour Franck.
Salut Xavier.
On est ensemble pour parler de ton groupe dans lequel tu es bassiste, à savoir Hell of a Ride. Vous avez votre nouvelle production Nine of Cups qui est sortie il y a déjà quelques mois maintenant, puisqu'on est le 20 mai. Je vais pas m'attacher à l'album dans un premier temps, mais plutôt à l'actualité, puisqu'on est le 20 mai, on sort pour certaines régions, dont la mienne, du confinement. Vous êtes sur Paris, c'est encore un peu compliqué. Ça se passe comment pour vous en tant que musicien? Comment est-ce que vous faites pour continuer d'assurer votre vie? Alors après, on va détailler un peu tout ce que vous avez fait, notamment avec les réseaux sociaux. Les répétitions, tout ça, ou l'esprit créatif, ça se passe comment dans des situations compliquées comme celles qu'on a connues ces dernières semaines?
Pour nous, c'est assez frustrant dans le sens où les dates sont annulées. Donc ça, c'est très frustrant parce qu'évidemment, c'est vraiment... Si on fait de la musique, c'est avant tout pour jouer sur scène, pour partager avec le public, pour avoir les retours du public. Donc ce côté-là est très frustrant. Par contre, ça ne nous empêche pas de continuer le travail de composition, de préparer l'avenir du groupe. Là, on est en train de jeter les bases d'un prochain album avec des idées de compo. On a sorti le clip Never Give Up, Never Surrender le 11 mai dernier, donc il y a une semaine. On a fait un direct pour présenter un avant-première. Ensuite, on l'a sorti sur Facebook. Là, il est déjà à plus de 4000 vues en un tout petit peu plus d'une semaine. Donc, je dirais que c'est frustrant pour le côté date qui saute. Par contre, tout le reste, il n'y a aucun problème. On continue, on ne s'arrête pas là. Never Give Up, Never Surrender.
C'est un titre qui, je trouve, est parfaitement de circonstance pour justement toutes les difficultés qu'on est en train de rencontrer. Ce clip-là, avec une mise en scène qui reprend le mythe du Minotaure, ce qui va bien d'ailleurs avec l'image qu'on retrouve sur le CD, à savoir un labyrinthe. Est-ce que vous avez rechangé quelques petites choses avec Jim Wilde par rapport à ce qui avait été tourné? Est-ce qu'il a fait un montage un peu particulier en raison des circonstances, ou est-ce que le clip était déjà en cet état-là avant le mois de mars?
Le clip était déjà dans cet état-là. En fait, on devait le sortir courant milieu mars, donc à peu près au moment où le confinement a eu lieu. Et du coup, évidemment, on a revu notre stratégie de sortie. Le clip était déjà dans les cartons, prêt à être balancé. C'est simplement qu'on a revu la stratégie de la sortie due à la situation actuelle.
Comment vous en êtes arrivé à ça, justement, à aller jusqu'à une mise en scène avec un Minotaure pour ce clip-là?
Nine of Cups, c'est le 9 de coupe, donc une carte de tarot qui, en fonction du sens, veut dire tout ce qui est de plus positif ou de plus négatif. On a commencé à orienter notre univers, on va dire visuel, sur quelque chose d'un peu plus large que le premier album, qui était assez emprunt de l'univers Tarantino, Bagnol, ce genre de choses. Là, on est en train de s'orienter vers un univers un peu plus ésotérique, fantastique, et en ouvrant le spectre visuel à la mythologie aussi, parce que le Never Give Up, Never Surrender, en gros, le Minotaure apparaît avec le mythe du fil d'Ariane, où on voit la première scène, c'est donc David Bell, qui est un acteur pro, qui a été l'initiateur du parcours en France, qui bosse en ce moment avec Olivier Marchal, qui a bossé avec pas mal de monde. Sur la première scène, on le voit en train de se guider sur une espèce de corde au sol. Donc ça reprend tous les mythes du Minotaure, du fil d'Ariane, ce genre de choses. Donc c'est globalement là-dessus qu'on a vraiment ouvert sur autre chose.
Oui, parce que pour ceux qui découvriraient éventuellement Hell of a Ride avec Nine of Cups, en fait, vous avez toute une histoire avec John Mad Dog Ringsdale.
Exactement.
Que vous suivez depuis des années avec son petit journal, etc. Qu'on a perdu donc dans les limbes de l'enfer il y a quelques temps, et donc vous continuez en fait sa quête.
Exactement, il y a la quête qui peut s'apparenter un peu à la quête de chacun dans notre vie, une quête de pas mal de choses. Il fait aussi face à ses démons sont mis en scène dans le clip Echoes et aussi Never Give Up, qui apparaissent sous la forme de personnages entièrement noirs, avec un masque noir, des gants noirs, des chaussures noires, donc ces spectres, qui en fait c'est un petit peu ce qui retrace la vie de chacun, et lui dans sa quête, il essaie de frayer son chemin dans la vie.
Sur Echoes, vous avez aussi choisi d'avoir une mise en scène, enfin, voire même c'est encore plus mis en scène que sur Never Give Up, Never Surrender. Ça fait partie, enfin, j'ai cette impression-là en fait que, d'accord, Hell of a Ride est un groupe, pour autant, comme vous avez un concept, le visuel est aussi extrêmement important. Je veux dire, je pense que les clips ont presque autant d'importance en fait que la musique et aussi que les lives, si on pouvait dire un tiers, un tiers, un tiers.
Exactement. Je dirais pour. Deux raisons principales, c'est que d'abord, il y a tellement actuellement de groupes et il y a tellement de. Je ne vais pas dire de la concurrence parce que c'est pas commercial et on n'est pas en concurrence commerciale, mais pour se démarquer en gros, il faut un univers et il faut aussi des clips. Et donc, du coup, on essaie de se démarquer un maximum en essayant de proposer des clips de qualité avec, comme tu le dis, de la mise en scène, du scénario, des prises de vue avec toute une histoire. Donc c'est en effet, c'est le but, ouais.
On va revenir sur l'album. 11 morceaux avec un petit featuring avec quelqu'un que vous aimez bien, Boots, du groupe The Grand Theft sur Forgive You. Ça s'est passé comment, justement, cette évolution, puisque tous les groupes avancent dans la vie et chacun progresse à sa façon. Vous, alors tu nous disais qu'il y avait un petit côté un peu plus ésotérique sur l'univers du groupe qui se développait, mais sur Hell of a Ride, de ton point de vue, quelle serait l'évolution majeure en fait pour le groupe ?
La grosse évolution, en tout cas pour cet album-là, c'est d'avoir ouvert le travail de composition à des personnes extérieures au groupe. Sur l'EP, sur Bête Noire, donc le précédent album, on avait fait ça en vase clos. Entre guillemets, le travail logique. Là, on s'est dit qu'on allait ouvrir pour essayer d'enrichir un maximum l'album. On voulait qu'il soit beaucoup plus gros. En termes de production, je pense qu'il est beaucoup plus gros. Et en termes d'arrangement, de composition, de paroles, il est aussi, je pense, beaucoup plus gros et beaucoup plus abouti parce que justement, on a ouvert ce travail de composition avec des personnes dont on avait entendu le travail qu'ils avaient fait dans le domaine de la musique. Et étant donné qu'on a continué de travailler avec Charles Calade-Massabo qui a produit le premier EP, le premier album, et cet album-là, on lui a demandé si on pouvait travailler avec ces gens-là, donc on lui a donné des noms, il est rentré en contact avec eux, il leur a proposé les bruts qu'on avait enregistrés de l'album, et ces mecs-là ont été plutôt assez enchantés, et ils se sont impliqués dans l'album. Et donc du coup, la grosse différence, c'est le fait d'avoir ouvert le travail de composition à des personnes extérieures au groupe.
Tu trouves que ça a donné une couleur un peu comment ? Parce que c'est quand même des univers assez sombres à chaque fois dont vous parlez. Il y a plein d'options, mais tu trouves qu'ils ont éclairé votre travail de quelle façon ?
Ils l'ont éclairé dans le sens où je pense qu'ils l'ont enrichi. On voulait un album qui soit vraiment, qui marque les esprits, avec une petite prise de risque dans le sens où il est un peu moins rock'n'roll et spontané que le précédent, mais beaucoup mieux produit, beaucoup plus pro et beaucoup plus mature. Et je pense qu'ils ont participé à cela dans le sens où ils sont venus avec leurs influences, qui sont mélangées avec notre groupe, avec certains textes ou certaines mises en scène qui peuvent être un peu noires ou un peu obscures, comme tu le disais. Tous ces mélanges de couleurs a permis d'aboutir à l'album qu'on connaît.
Parce que même s'il y a un côté un peu sombre, je reviens sur le titre Never Give Up, Never Surrender, c'est vraiment très important d'avoir toujours cette envie de continuer et de surmonter les étapes. C'est pas parce que c'est sombre qu'il faut baisser les bras.
Exactement, c'est le credo du groupe. C'est un peu la mise en scène qu'on a de John dans le John Madden Kingsdale, donc notre mascotte, dans les différents clips, où quels que soient les obstacles, il les franchit ou il les affronte et il se relève, quels que soient les affres de la vie. Oui, tout à fait.
Du coup, c'était important d'avoir Stand Up en premier morceau, avec ce Stand Up qui est scandé dès le départ, avec justement Levez-vous, bougez-vous.
Oui, tout à fait, c'était un choix volontaire. Bon, le morceau s'y prête aussi, enfin, d'autres trucs, le morceau s'y prêtait, mais le fait de commencer par Stand Up. Et un petit clin d'œil où on commence, on chauffe pour l'écoute de l'album. Petit côté ironique comme ça, oui, tout à fait.
Sur l'enregistrement, donc vous connaissiez particulièrement bien votre producteur. Vous vous êtes organisé de la même façon. Alors, mis à part, comme tu le disais, les interventions extérieures, est-ce que vous avez changé des choses sur votre façon d'enregistrer
Alors, la façon d'enregistrer, la dernière fois, on avait tout fait sur Paris. Là, le chanteur est parti aux États-Unis chez Charles pour faire ses parties voix. Mais au préalable, il était venu en France pour enregistrer les instruments, donc basse, guitare, batterie, plus quelques arrangements de samples électro. En gros, on enregistrait en brut dans du Cubase ou ce genre de choses. Et ensuite, lui, il prenait tout. Il a amené tout aux États-Unis, il repartait avec tout son matos aux États-Unis et il réampait. Donc, il prenait les pistes brutes et les envoyait dans des différents amplis pour avoir un vrai son, le son assez gros qu'on entend sur l'album. Ouais.
C'est un vrai travail de justement le réamping pour arriver à quelque chose de massif. C'est un son que vous travaillez, vous souhaitez pousser jusqu'où en fait, puisque vous êtes un peu à la limite, si on peut dire, entre rock et métal, avec des petites notes pop de temps en temps sur certains titres. Ça se fait un peu à l'insta, vous mettez pas de barrière en fait, chaque morceau peut sonner un peu comme il veut, ou est-ce que vous avez une vraie ligne directrice pour le groupe ?
Je dirais qu'on a une base qui est quand même le rock, gros rock, voire heavy rock peut-être. Et après, on essaie d'agrémenter avec pas mal de choses. Mais globalement, la base reste quand même rock. On va pas changer. On va pas faire du hip-hop. Enfin, quoi que c'est un futur, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il y a toujours une base rock, gros rock. Et après, on agrémente avec ce qui nous passe par la tête ou avec les envies de chacun sur chaque morceau, ouais.
Toi, en tant que bassiste, il y a un truc spécial que tu as mis dans l'album ? Un petit truc technique ou
L'utilisation de basse que j'avais pas du tout utilisé sur le premier album.
Ouais.
J'avais utilisé une basse sur le premier album et là on a varié avec plusieurs basses, Lackland, Sadowski, Fender, pour certains passages, avoir vraiment travaillé le son de façon extrêmement précise pour que ça rende super bien.
L'important, c'est d'avoir un gros son. Pour autant, il faut quand même que tout se détache bien et vous faites extrêmement attention à la qualité sonore de chaque note.
Oui, complètement. Ouais. D'ailleurs, Charles avait reçu un conseil d'un pote à lui qui bosse là-bas, qui avait bossé pour l'avant-dernier album de Slash, l'album ouais. solo de Slash. Et il lui avait filé comme astuce, par exemple, dès qu'un accord est joué, le guitariste joue l'accord et il accorde la guitare sur chaque note que le guitariste joue. Donc au lieu de faire un accordage, par exemple, tu accordes toutes tes cordes à vide et ensuite tu déroules l'album. Là, carrément, chaque accord, il accorde la guitare pour l'accord en question. Donc du coup, apparemment, ça te donne un côté extrêmement précis et extrêmement, toutes les notes se détachent super bien. Et apparemment, à mixer, ça donne vraiment le côté très précis du mix qu'on peut entendre sur l'album. Ouais.
Ah oui, ça doit demander un travail de préparation assez dingue.
Un truc de fou. Moi, heureusement, j'ai pas eu à le faire parce que avec la basse, je joue pas d'accord. En tant que guitariste, je pense que ça aurait été un peu long.
Mais c'est vrai qu'après, comme tout est parfaitement juste, puisque tu travailles ton accordage pour que l'accord sonne parfaitement bien, t'as pas de problème de décalage, etc. C'est vrai que c'est une très bonne astuce.
Oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais.
Un mot sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Vous avez pu faire un concert, j'ai vu ça le 30 ou le 31 janvier, au 18 mars. Et là, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on vous programme déjà, a priori c'est en septembre, pour faire toi Rock in Fest, volume 2.
Exactement, ouais, ouais.
Il y a d'autres choses qui sont prévues pour plus tard?
Alors, il y en avait d'autres qui étaient prévues. Le truc, c'est que là, c'est difficile de se projeter. Je ne veux pas envoyer de fausses informations.
Bien
donc,
sûr.
Pour l'instant, je vais dire qu'il y a des choses en suspens, d'autres qui ont été annulées, évidemment. Donc, on attend de voir. Pour l'instant, le festival en septembre semble maintenu. On espère, en tout cas, qu'on pourra y être. Mais pour l'instant, je dirais que l'avenir est un peu flou. Je pense qu'il faut attendre le dernier quart de l'année pour commencer à retrouver un peu une situation normale.
Pour ce festival, Faire Toi Rock in Fest, c'est quel format en capacité d'accueil?
Je crois que c'est à peu près 5000 personnes. Donc, c'est un festival qui s'est monté il y a quelques années, qui a fait tourner quelques groupes. Là, on sera avec Dead Bones Bunny, je ne sais plus exactement quelle sera la programmation. Assez éclectique, assez sympa. Commence à bien grandir, ce festival qui commence à grandir, ouais.
Tu disais tout à l'heure que vous étiez en train de travailler sur d'autres productions. Ça va vous occuper, je suppose, pendant encore quelques mois. Vous avez déjà une idée de à quoi va ressembler le prochain album, ou c'est vraiment trop tôt pour en parler? Vous êtes qu'au tout début de la réflexion?
On est au début de la réflexion. On a commencé à travailler sur des idées de composition, des morceaux qui commencent à se mettre en place. Mais à l'heure actuelle, on va rester dans la lignée du gros rock, hein, comme je le disais tout à l'heure. Mm. Et pour l'instant, c'est vraiment trop récent pour pouvoir donner des lignes directrices ou des lignes précises plutôt sur ce prochain album.
De toute façon, Nine Cups vient de sortir, la musique ça se périme pas, donc on va pouvoir en profiter encore pendant pas mal de temps, puisque c'est disponible partout, et puis vous êtes aussi sur les sites en streaming, je pense notamment à Spotify.
Oui, tout à fait, sur Spotify, sur YouTube, sur iTunes, sur Deezer aussi, un peu partout qu'on essaie d'être présent sur toutes les plateformes.
Je vais te proposer 5 choses à boire ou à manger et tu peux en prendre une parmi les 5. C'est-à-dire que tu peux soit prendre une part de pizza avec les Tortues Ninja, un donuts avec Homer Simpson, une bière au beurre avec Harry Potter, un lambas avec Legolas ou un onigiri avec Sangoku. Tu prendrais quoi?
La pizza avec les Tortues Ninja.
Ouais? Pour la pizza ou pour les Tortues Ninja?
Alors les deux. J'aime bien les pizzas, évidemment. Tortues Ninja, ça me rappelle mon enfance. Toutes les histoires qui... La fratrie, donc, qui peut s'apparenter un petit peu au groupe qu'on a. Donc il y a un peu toute cette croisée des informations entre la pizza, l'enfance et le groupe. Donc c'est mon choix.
Un dernier mot pour conclure?
Never give up, never surrender. Hein, on ne lâche rien, on ne s'arrête pas, on ne lâche rien. Malgré cette période un petit peu difficile, quels que soient les obstacles de la vie, on y fait front, on se relève.
Merci beaucoup, Franck.
De rien, merci à toi et puis bonne continuation et bonne journée.
Merci.
Et ciao.